Brusquement, il se leva de sa stalle. Sa décision était prise.
« Sire !»
s'écria-t-il en s'arrêtant devant le trône de Philippe.
« Puisque tous vos vassaux sont ici assemblés !»
Mille de Noyers et l'évêque Burgers, quelques instants auparavant, avaient parlé à voix ferme et claire, audible dans tout l'édifice. Or, on eut l'impression, quand Robert ouvrit la bouche, que des oisillons avaient gazouillé avant lui.
« Et puisqu'à tous vous devez votre justice !»
continua-t-il.
« Justice, je viens vous demander !»«
Monseigneur de Beaumont, mon cousin, par qui vous a-t-il été fait tort ?» demanda gravement Philippe VI.
« Il m'a été fait tort, sire, par votre vassal dame Mao de Bourgogne, qui tient indûment par cautèle et félonie les titres et possessions de la comté d'Artois, qui me reviennent par droit de mes pères !»
On entendit alors une voix presque aussi forte s'écrier.
« Allons, cela devait bien arriver !»
C'était Mao d'Artois qui venait de parler. Il y avait eu quelques mouvements de surprise dans l'assistance, mais non de stupeur. Robert agissait comme le comte de Flandre l'avait fait le jour du sacre. Il semblait que l'usage s'établit à présent, quand un père se jugeait lésé, qu'il exprimât sa plainte en ces sortes d'occasions solennelles et avec visiblement l'accord préalable du roi. Le duc Eudes de Bourgogne interrogeait du regard sa sœur, la reine de France, laquelle lui répondait de même et par geste des mains ouvertes pour lui faire comprendre qu'elle était la première étonnée et ne se trouvait au courant de rien. « Mon cousin !» dit Philippe. « Pouvez-vous produire pièces et témoignages pour certifier votre droit ?»«
Je le puis !»
dit fermement Robert.
« Il ne le peut ! Il ment !»
s'écria Mao, qui quitta l'estal et vint rejoindre son neveu devant le roi. Comme ils se ressemblaient, Robert et Mao, sous leurs couronnes et leurs manteaux identiques, animés de la même fureur et le sang affluent à leur encolure de taureau. Mao portait elle aussi le long de son flanc de géante guerrière le grand glaive de pair de France à garde d'or. Mère et fils, ils eussent sans doute moins sûrement montré l'évidence de leur parenté.
« Ma tante !» dit Robert. « Niez-vous donc que le traité de mariage du noble comte Philippe d'Artois, mon père, me faisait, moi, son premier ward à naître, héritier de l'Artois ?» et que vous avez profité de mon enfance, quand mon père fut mort, pour me dépouiller. Je nie tout ce que vous dites. Méchant neveu qui me voulait honnir, niez-vous qu'il y ait eu traité de mariage ? Je le nie !»
hurla Mao. Alors, un vaste murmure de réprobation s'éleva dans l'assistance, et même on entendit distinctement le vieux comte de Bouville, ancien chambellan de Philippe le Bel, pousser un « Oh !» scandalisé. Sans que chacun eût les mêmes raisons que Bouville, curateur au ventre de la reine Clémence lors de la naissance de Jean Ier le posthume, de connaître les capacités de Mao dans le mensonge et son aplomb dans le crime, il était flagrant qu'elle niait l'évidence. Un mariage entre un fils d'Artois, prince à la fleur de lys, et une fille de Bretagne n'avait pu se conclure sans un contrat ratifié par les pairs de l'époque et par le roi. Le duc Jean de Bretagne le disait à ses voisins. Cette fois, Mao passait les bornes. Qu'elle continuât, comme elle l'avait fait dans ses deux procès, d'exciper de la vieille coutume d'Artois laquelle jouait en sa faveur par suite du décès prématuré de son frère, soit, mais non de nier qu'il y eût contrat. Elle confirmait tous les soupçons et d'abord celui d'avoir fait disparaître les pièces. Philippe VI s'adressa à l'évêque d'Amiens. « Monseigneur, veuillez porter jusqu'à nous les saints évangiles et les présenter aux plaignants. » Il prit un temps et ajouta « Ainsi qu'à la défendresse. » Et quand ce fut fait, « Acceptez-vous l'un comme l'autre, mon cousin, ma cousine, d'assurer vos dires par serment prononcé sur les très saints évangiles de la foi, par devant nous, votre suzerain, et les rois, nos parents, et tous vos pères ici assemblés. » Il était vraiment majestueux, Philippe, en prononçant cela. Et son fils, le jeune prince Jean, âgé de 10 ans, le considérait les yeux écarquillés, le menton un peu pendant avec une admiration éperdue. Mais la reine de France, Jeanne la Boiteuse, avait un mauvais pli cruel de chaque côté de la bouche et ses doigts tremblaient. La fille de Mao, Jeanne la Veuve, l'épouse de Philippe le Long, mince et sèche, était devenue aussi blanche de visage que sa blanche robe de reine douairière. Et blême aussi, la petite fille de Mao, la jeune duchesse de Bourgogne, tout comme le duc Eudes, son époux. On eût dit qu'ils allaient s'élancer pour retenir Mao de jurer. Toutes les têtes se tendaient dans un grand silence.
« J'accepte !»
dirent d'une même voix Mao et Robert.
« Dégantez-vous !» leur dit l'évêque d'Amiens.
Mao portait des gants verts, que la chaleur avait également fait déteindre, si bien que les deux mains énormes qui se tendirent au-dessus du Saint-Livre étaient l'une rouge comme le sang et l'autre verte comme le fiel.
« Je jure !» prononça Robert. « Que la comté d'Artois est mienne et que je produirai lettres et témoignages qui établiront mes droits et possessions. »«
Mon beau neveu, s'écria Mao, osez-vous jurer que telles lettres vous les avez jamais vues ou possédées ?»« Yeux gris dans yeux gris, menton carré chargé de graisse et presque visage contre visage, il se défiait. »«
Gueuse, pensa Robert, c'est donc bien toi qui les as volées. »
Et comme, en de telles circonstances, il faut être déterminé, il répondit clairement
« Oui, je le jure! Mais vous, ma belle tante, osez-vous jurer que telles lettres n'ont point existé et que vous n'en avez jamais eu connaissance ni possession en vos mains? J'en fais serment !»
répondit-elle, avec une égale détermination et en regardant Robert avec une égale haine. Aucun d'eux n'avait pu vraiment marquer un point sur l'autre. La balance demeurait immobile avec, dans chaque plateau, le poids du faux serment qu'ils s'étaient obligés mutuellement à prononcer.
« Dès demain, commissaires seront nommés pour mener enquête et éclairer ma justice. Qui a menti sera châtié par Dieu. Qui a dit vrai sera établi dans son droit, »
dit Philippe en faisant signe à l'évêque d'emporter l'évangile.
Dieu n'est pas obligé d'intervenir directement pour punir le parjure, et le ciel peut rester muet. Les mauvaises âmes recèlent en elles-mêmes la suffisante semence de leur propre malheur.